Aujourd'hui, nous recevons une légende du rock français, le roi du riff, le prince du kiff, le Keith Richard hexagonal, un guitariste, un chanteur, un producteur. Ce midi, nous avons le privilège de recevoir Monsieur Louis Bertignac.
Merci.
Bonjour Louis Bertignac.
Bonjour.
Louis Bertignac, comment ne pas parler avec vous du seul et unique groupe de rock français de ces 40 dernières années, Téléphone, qui hélas a raccroché. Bon, il y a aussi les Forbans, ça a duré moins longtemps.
Et Indochine.
Oh, il y a beaucoup de groupes.
C'est sympa pour Trust aussi.
Ouais. Bah ouais,
et
ouais.
Après, il y a quand même jamais eu en France un seul groupe de. Enfin, je veux dire quand même, c'était un des plus grands groupes de rock français, Téléphone.
Qu'est-ce que je peux dire? Ouais.
Modestement.
Je vais avoir
l'air
d'un frimeur si je dis oui. Bon. Non, il y en a eu beaucoup des groupes. Il y en a eu beaucoup avec des bons musiciens, avec des mauvais, de tout.
Le rock, c'est une musique de contestation. En France, on aime bien contester. D'ailleurs, on le voit en ce moment. Vous n'avez pas envie de produire un nouveau groupe à la mode, les Yellow Gillettes?
Yeah.
Vous connaissez cette phrase de John Lennon qui, quand on lui demandait ce qu'il pensait du rock français, le comparait au vin anglais?
Ouais.
Et alors, qu'est-ce que vous lui répondez?
Il n'y a toujours pas de vin en Angleterre. Alors que du rock, il y en a ici.
Quand vous enregistrez avec Téléphone, il y avait les Rolling Stones qui étaient dans les studios et vous avez obtenu autorisation de rester toute la nuit pour les regarder.
Mais toutes les nuits.
Toutes les nuits.
C'était un bonheur, ouais. J'ai beaucoup appris.
Qu'est-ce que vous avez appris en regardant les Rolling Stones travailler?
J'ai appris que finalement, ils étaient aussi mauvais que nous. En fait.
Ça vous a décomplexé de les regarder?
C'est vrai, tout à fait.
Ouais. Ça a démythifié?
Bah oui, ils répétaient, ils galéraient. Et puis au bout de quelques jours de répétition sur un morceau, ça allait mieux. Comme nous. Mais en mieux.
Alors, c'est vrai que moi, je me souviens, ado, j'écoutais...
Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde.
Et surtout... Quand même, vous vous rendez compte, Louis Bertignac, vous êtes responsable de combien de mariages, combien d'enfants, combien de gueules de bois?
À
chaque fête, quand l'ambiance retombe, on passe un vieux téléphone et la fête repart.
Je suis responsable aussi de rencontres entre les gens.
Il y a des gens qui viennent vous dire on s'est rencontrés sur
vos concerts.
À ton concert, bien sûr. Ouais.
Ouais. Ah ouais. Ça vous fait plaisir.
Et on a appelé notre enfant Louis.
Je croyais téléphone.
Ça non, été... non.
Alors vous avez des regrets de cette époque parce que vous étiez en couple avec Corinne Marienno et vous dites qu'il y avait plein de femmes qui vous attendaient et vous n'avez pas pu en profiter.
C'est vrai, mais je me suis rattrapé.
Louis Bertignac, on a le plaisir de vous recevoir ce midi à l'occasion de la sortie de votre nouvel album Origine, album dans lequel vous reprenez en français à votre sauce de grands standards de la chanson anglo-saxonne. C'était important pour vous cet album?
Il fallait oser surtout.
Parce que vous avez dû demander l'autorisation à chaque fois?
Oui, aussi, ouais.
Ça a été compliqué, j'imagine.
C'est pas moi qui ai demandé, c'est ma maison de disques
qui
s'est dévouée. Ça a été long, mais de temps en temps, j'avais
une bonne surprise.
Ouais, un SMS surprise. Ça y est, Gigi Kell est d'accord.
Ouais.
Super. Il est mort depuis 5 ans, mais
il est d'accord.
Hendrix n'a pas été d'accord.
Ah ouais.
Hendrix m'a dit, pourtant je l'aime, mais il m'a dit, tu peux le faire en anglais, mais pas en français.
Ah. Parce que vous avez donc traduit, et alors vous êtes permis quelques libertés, comme par exemple Cocaïne, qui est devenue Coquine.
Oui. Et qui parle, bon, c'est un peu plus large du coup, ça parle pas que de la cocaïne, auquel j'ai jamais touché d'ailleurs. Pour un drogué, c'est rare.
Mais vous voulez que je vous félicite?
Bravo!
Ah non, mais moi je ne prenais que de l'héroïne, vous avez dit, je prenais que de l'héroïne à dose homéopathique. Enfin, c'est quand même une drogue dure.
Oui, c'est vrai.
Ça fait combien de temps que vous ne vous droguez plus, Louis Bertignac?
J'ai arrêté à 30 ans, ça fait 34 ans.
Ah oui, d'accord. C'est l'amour qui vous a aidé ou c'est un...
Pas du tout.
Non, comme ça.
Ouais, comme ça.
Les prix, c'était trop cher.
Ça a augmenté sans arrêt.
C'est ça, ouais.
Ça a été quoi le déclic où vous vous êtes dit, allez, maintenant j'arrête?
Je crois, il y a eu 2-3 déclics.
Vous avez perdu beaucoup d'amis aussi?
Aussi, bien sûr. Non, mais une fois, j'ai eu un accident de voiture. En fait, c'est un type qui m'a grillé la priorité. Et il m'a fait rentrer dans une pharmacie. Heureusement, c'était la nuit. Il n'y avait personne dans la pharmacie, mais je me suis retrouvé à fond dans la pharmacie, avec des brosses à dents explosées tout autour de moi. C'était dingue. Et donc, là, j'appelle la police. Et juste à ce moment-là, je me dis, bon, il me reste une petite ligne, il ne faut pas qu'il la trouve. J'ouvre le paquet et je me fais la ligne.
Non.
Et j'étais tellement dégoûté de tout ça, d'agir comme ça, que je me suis dit, bon, il y en a marre de ça.
Vous avez dit, c'est un signe, je suis rentré dans une pharmacie, j'arrête.
Voilà. C'est possible, un truc comme ça.
On écoute un extrait de la chanson donc Cocaïne, qui est devenue Coquine.
Tu m'as traîné par terre, foutu ma vie en l'air, Coquine. Tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal, Coquine. Thank you.
King.
Merci.
Louis Bertignac, vous êtes considéré comme le plus grand guitariste français de rock.
Alors là, je veux dire, c'est des grosses conneries.
Ah bon ?
Ouais, ouais.
Alors ?
Il ne faut pas dire des trucs comme ça, parce qu'après, il y en a qui vont me retomber dessus. Il se prétend être le plus grand guitariste de France.
Un des plus grands guitaristes.
Non, on vous considère comme c'est l'insecte. Ah ouais, c'est-à-dire que ce n'est pas...
Si c'est nous qui le disons,
alors
c'est
je ne dis pas.
Voilà.
Ok, je ne dis rien.
Mais nous le dit.
Je pense que ce n'est pas vrai.
Qui est le plus grand guitariste français de rock, Louis Bertignac?
Bah, c'est
personne
moi.
De rock, à part moi.
C'est qui alors?
Paul Personne, non? Quelqu'un comme
j'aime
ça?
J'aime beaucoup Paul, ouais. C'est lui, c'est blues.
C'est plus blues, ouais, c'est vrai.
Bah, y a Nono Kriev qui est très bon, et il y en a pas mal.
Alors, Louis Bertignac, votre rencontre avec Jean-Louis Aubert et Colin Kay est complètement fortuite. C'est un copain qui vous l'a présenté, il était au lycée Carnot comme
exactement,
vous.
Exactement, voilà.
Et qui a dit, je connais un mec top.
Ouais, et moi aussi, il me parlait de lui. Et puis, on s'est rencontrés un jour, on est parti jouer.
Vous avez passé 6 heures ensemble le premier
voilà,
jour. Il y avait
jouer,
une connivence incroyable.
Et puis après, on s'est plus quittés. On a passé des mois, des années ensemble. Richard, je l'ai rencontré dans un concert de... Il accompagnait un type qui s'appelle Vince Taylor. Ouais, on est devenus potes. Corinne, pareil, c'était une autre histoire. C'était plus une histoire de drogue, d'ailleurs.
C'était une histoire d'amour aussi, quand même.
Après. Mais la première fois, c'est vrai que c'est un copain qui me... Un bon copain qui... On voulait fumer un truc. Et il me dit, j'ai un plan, si je connais des filles, donc on va voir des filles. Et effectivement, j'arrive dans l'appartement, je craque, les deux filles sont très mignonnes. Mais elles n'avaient pas de shit, elles n'avaient rien. Donc, mais quand même, j'avais flashé et je leur dis, voilà, si vous voulez, on répète. Vous êtes danseuse, ah, super. Moi, je répète, si vous voulez, vous venez, on vous fera danser, on jouera de la musique. Et puis Corinne est venue, et puis il y a eu une longue histoire ensemble. Mais pas tout de suite, hein. Elle a mis 1 an et demi avant de bien vouloir sortir avec moi.
Et ça a duré longtemps, alors, après?
Ça a duré 2-3 ans. C'était difficile. Hein.
Elle doit être contente de le savoir des années plus
tard. J'espère qu'elle n'écoute pas.
Alors, Louis Bertignac, vous avez reformé Téléphone sous le nom des Insus. Pourquoi pas les smartphones?
C'était une très bonne idée. Mais on l'a eu trop tard. C'était une bonne idée. Ouais. Mais on n'y a pas pensé sur le moment.
Alors après Téléphone, vous avez joué dans un groupe Bertignac et les Visiteurs qui était avec Corinne Marienno. Et là, ça a été un succès aussi, ces idées-là.
Ouais, cette chanson a bien marché. Le reste, pas tellement. Mais cette chanson a très bien marché. Mais je la trouve jolie, c'est vrai.
Alors, elle vous dites que vous n'avez pas repris Corinne Marienno dans les Insus, parce qu'il n'y avait plus d'amour, en fait, c'est ça? Qu'un groupe, c'est de l'amour?
Il y a beaucoup de ça, mais c'est surtout, c'était des engueulades continuelles entre Corinne et Jean-Louis Aubert, le chanteur.
Qui sont quand même deux fortes personnalités aussi.
Oui, c'est ça. Et, qui sont totalement opposés.
Ouais, c'est ça, le chien et le chat, quoi. C'est
voilà, vraiment... et donc c'était, même pendant Téléphone, c'était très souvent des engueulades. C'était un enfer.
Ils n'ont jamais réussi à s'entendre bien, en fait.
Aussi, à un moment, quand on s'est quitté avec Corinne, elle a été un peu avec Jean-Louis, ça allait mieux.
Non, c'est vrai.
Ouais, ouais.
Ah, c'est drôle. Et après, ils se sont redétestés.
Après,
en fait.
Pire qu'avant.
Ah oui.
Et ça vous a pas gêné, ça?
Qu'ils soient ensemble, ouais, ou qu'ils se détestent?
Non, qu'ils se soient mis ensemble après.
Bien sûr, ça m'a gêné, ouais.
Mais de la part de Jean-Louis, c'est pas cool. Pardon, je veux pas, mais...
Bah après, s'ils sont plus ensemble, elle fait ce qu'elle veut, quand même.
Bah oui, quand même.
Bah enfin, tu pourrais sortir avec l'ex d'un de tes meilleurs amis.
Ah, sans pitié, elle. Sans pitié.
Je sais pas, ça s'est jamais présenté, je sais pas.
Oh, oh là là,
je sais pas.
Non, non, mais préviens-nous, bah, parce qu'on ne présente plus personne.
Non, mais Jean-Louis Aubert, il est très sexy en même temps, ça, je la comprends.
Bien sûr. Pour être honnête, Jean-Louis m'a demandé l'autorisation.
Ah, d'accord.
Il m'a dit, il se passe quelque chose... Corinne, non.
Non.
Il m'a dit, il se passe quelque chose avec Corinne, qu'est-ce que t'en penses? Ah, d'accord. Je lui ai dit, bon, ben, vas-y.
Et vous auriez aimé que ça se passe mieux, qu'elle soit là pour la recomposition du groupe,
ou... Honnêtement, oui, mais...
C'était pas possible humainement, en fait, c'est
mais
ça.
Dès le premier concert de Téléphone, il y avait des problèmes, on s'est engueulés. Le premier concert de Téléphone, le fameux au Centre Américain, ça s'est fini avec un autre bassiste en rappel, parce qu'elle nous avait trouvé trop nuls. Elle voulait plus remonter sur scène avec nous. Donc, c'était pas facile. C'est pas toujours facile. Je pense que la tournée des Insus aurait duré une journée et demie.
Ah ouais.
Et là, c'était un plaisir de vous retrouver.
Ah, c'était super, vraiment. Je me suis rendu compte que Jean-Louis m'aimait beaucoup. Et il s'est rendu compte que je l'aimais beaucoup. Alors qu'on s'était...
Vous étiez perdu de vue.
Voilà. Et
là, le lien était très fort, en fait. Le lien est revenu comme si vous étiez quitté la veille.
Même mieux encore, parce qu'il n'y avait pas Corinne entre nous.
Ah, cette Corinne.
Ah, les femmes dans le rock'n'roll. Il m'avait dit ça, Jagger. Il m'avait dit, mais pourquoi? Une femme, ça ne va jamais le faire.
Mick Jagger, oh, c'est très sexiste de dire ça.
Ah ouais, c'est vrai.
Pourtant, vous avez produit ensuite beaucoup d'albums de femmes, oui. Louis Bertignac.
Et de femmes de Jagger aussi.
Carla Bruni.
Oui, ouais.
C'est tout ? Qui d'autre de femmes de Jagger ?
Non, c'est tout.
C'est oui, c'est tout. Ouais. Ça a été une surprise, le succès de cet album de Carla Bruni. Oui. Quelqu'un m'a dit, parce que c'est... vous n'aviez jamais fait ça, de produire un album qui marchait à ce point-là ?
Oh non, bien sûr. J'ai jamais eu un album qui a marché à ce point-là, d'ailleurs.
Ouais.
C'était sympa. On était potes depuis longtemps. Elle m'invite à dîner, elle me fait écouter les trucs. Je lui dis, la prod est pourrie. Les chansons sont bien, la prod est pourrie. Elle me dit, ah, c'est bien ce que je pensais. Mais alors, eh ben, prends un bon producteur. Alors, je lui donne des noms de mecs avec qui j'ai bossé, qui sont excellents. Et puis, je fais un arrangement sur une de ses chansons pour voir, comme ça, parce que ça me plaisait. Je lui dis, tu vois, on peut faire un truc comme ça. C'est vachement mieux que ce que tu me proposes, là. Et elle me dit, bah oui, mais c'est exactement ce que je veux. Il faut que tu le fasses. Et voilà, et j'ai dit non pendant 2 semaines. Et puis, elle a réussi à me convaincre.
Et 2 millions d'exemplaires.
Et 2 millions. Ça, je ne m'attendais pas à ça, sinon j'aurais dit oui tout de suite.
Donc là, c'est, en fait, c'est vos chansons préférées que vous avez choisies ?
Non, pas forcément. Mais c'est mes groupes préférés, mes artistes préférés. Et là-dedans, j'ai choisi les chansons qui me collaient le plus, c'est-à-dire sur lesquelles je pensais pouvoir réécrire le texte, sur lequel je pensais pouvoir jouer de la batterie, parce que j'ai joué sur tous les morceaux, ouais. Mais il y en avait certaines qui n'étaient pas possibles pour mon niveau de batterie, donc j'ai quand même limité.
Laquelle vous aimeriez qu'on écoute, là ?
Ah ben, une qui est pas mal d'actualité, on peut faire Ma Gueule.
Ma Gueule, ma ben gueule. On écoute. Pourquoi vous dites qu'elle est pas mal d'actualité ?
Parce qu'elle parle de gens qui crient révolution et de gens qui ont l'impression qu'on s'est foutu de leur gueule quand on leur a...
Ça pourrait être l'hymne des gilets jaunes.
Ça pourrait presque, ouais. D'ailleurs, je vais leur proposer.
Vous êtes pourtant, alors c'est pas un paradoxe, vous êtes ami avec Nicolas Sarkozy, Louis Bertignac ?
Bah, je suis ami, je n'ai pas son numéro, si vous voulez, quand même. Mais comme je suis ami avec Carla, j'ai été amené à le rencontrer 2-3 fois.
Ça paraît une rencontre incongrue, Louis Bertignac, oui, Nicolas Sarkozy ?
Oui, bien sûr. Mais on s'est retrouvé sur un truc, c'est qu'il aime bien le PSG, sur 2 trucs. Et il aime bien Johnny Hallyday.
Ça,
donc je lançais n'importe quel morceau de Johnny, il enquillait tout de suite.
Et vous dites aussi, un jour, il vous a consolé parce que vous étiez au fond du trou et il vous a dit...
Il m'a dit, ouais, c'est vrai.
Au fond, vous avez une rupture amoureuse, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, terrible.
Et vous étiez au...
Ah ouais, c'était terrible, je perdais ma femme et mes filles en même temps.
Et là, ça n'allait pas du tout et Sarkozy vous a consolé.
Ouais, il m'a dit, écoute, j'étais au fond du trou, je me suis fait larguer en plein milieu des élections. Elle est partie avec un autre... Et j'étais vraiment mal. Et puis, tu vois, 6 mois après, je suis avec la plus belle femme du monde.
Ah, c'est mignon.
Et vous aussi, vous avez rencontré une femme avec qui ça se passe merveilleusement bien.
Ouais, c'est vrai.
Donc, il ne faut jamais désespérer.
Ça, je suis d'accord avec vous.
Je vous présente Michaël Quiroga, Louis Bertignac.
Salut.
Salut, Louis. Donc, moi, je suis ravi. Hein. C'est un honneur de rencontrer un des piliers du rock français. Donc, chanteur légendaire du groupe Téléphone, on l'a dit. Alors, sachez qu'on parlait beaucoup de vous dans les cours d'école, de vous quatre et de vos petites histoires. On a su que vous aviez eu une histoire d'amour avec Corinne Marienneau. On avait cru apprendre qu'elle vous avait quitté pour Jean-Louis Aubert. Puis pour le batteur du groupe, Richard Kolinka, je crois.
Non.
Non.
Non, non.
Ah, ça,
elle m'a
pas
quitté
dire.
Pour Jean-Louis. Non, elle m'a quitté parce que. Parce qu'elle était. Elle, non, je l'ai quitté, on peut le dire. Ouais.
D'accord,
je me suis sauvé.
J'ai remarqué un truc, c'est que vous êtes un rocker comme Johnny, que vous avez 2 enfants d'un précédent mariage comme Johnny, que vous avez une compagne bien plus jeune que vous comme Johnny, et elle s'appelle Laetitia.
Laetitia. Ouais.
Je voulais vous demander,
avec
vous êtes comme, voilà. Alors je voulais vous demander, vos testaments, c'est réglé ou...
Non, pas du tout.
D'accord, parce qu'il y a une jurisprudence. Et votre Laetitia, elle est en bon terme avec les fans, tout va bien. Hein.
La mienne, oui, ça va.
Ouais, bah, ça va.
Vois, elle est très, c'est plutôt elle qui est en bon terme avec les fans, c'est-à-dire qu'elle s'occupe souvent de.
D'accord, tant mieux, parce que Laetitia Hallyday, elle, par exemple, les fans de Johnny la détestent. Et moi, je sais même pas
tous,
pourquoi.
Voilà,
il y en a plein qui disent, ouais, faut qu'à rendre l'argent. Eh, mais non, moi j'ai envie de leur dire déjà, c'est pas le vôtre, hein, de quoi je me mêle. Vous avez acheté un disque, vous avez pas fait un don, hein. Johnny c'est un artiste, pas une ONG. Et puis quand vous vous êtes embrouillé avec le cousin Adrien pour l'héritage du terrain du grand-père, Johnny il a pas débarqué pour entraîner un des 2 voleurs. Voilà, mais enfin bref,
c'est
on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour vous, Louis Bertignac, votre nouvel album c'est Origine, dans lequel vous avez écrit les versions françaises des chansons qui vous ont marqué. marqué. On y retrouve celles qui sont à l'origine de votre vocation. Je pense qu'on a tous ici une chanson ou deux dans la tête qu'on pourrait reprendre et qui serait à l'origine de notre vocation. Je sais pas, Christine Bérou, par exemple, dont l'énergie et la jeunesse sont irrémédiablement aspirées par une progéniture en bas âge qui nécessite toute son attention, n'a plus en tête que la chanson de la grande Ginette Reynaud.
Fatiguée.
Ouais, bien vu.
Eh ouais, Léa Landau, qui est toujours en galère, qui cherche un homme comme un noyé cherche de l'air, pourrait reprendre ça.
Parlez-moi de lui.
Eh ouais. Vous reprenez en français les chansons de votre adolescence, les Beatles, les Stones, George Harrison, entre autres. Vous auriez même pu reprendre celle-là.
Will you still need me?
Ah, ouais.
Will you still feed me?
Eh oui, forcément.
Oui. Eh oui.
Et c'est votre âge en plus.
64, ouais.
Eh ben ouais. Eh ouais. Vous avez même... Alors vous avez quand même une petite préférence, il faut le dire, pour le poète maudit, Bob Dylan. Hein, je trouve il y a 3 reprises, je crois, sur l'album.
Ouais.
Voilà,
bien
notamment sûr. Forever Young, hein, toujours jeune, comme le public de cette émission. Louis Bertignac, vous avez pris en âge et en expérience, mais vous êtes toujours jeune. Merci de votre patience.
Merci beaucoup.
Ça a été important pour vous, Louis Bertignac, d'être jury dans The Voice ?
Important, non, c'était différent, on va dire.
Ça vous a fait connaître d'une nouvelle génération aussi ?
Oui, peut-être, mais...
Vous en parlez encore dans la rue ?
Ça arrive, ouais. On me dit, mais vous manquez à The Voice.
Ouais, hein. C'est vrai.
Mais vous étiez super humain, je me rappelle, vous aviez du mal à prendre vos décisions parce que vous écoutiez tout le monde derrière vous, dans le public.
Oui, ben bah oui, mais c'est de toute façon, les décisions, c'est-à-dire de virer qui ?
Ouais.
C'était ça le truc.
Ouais.
J'ai pas aimé ces moments. Autant j'adore le truc à l'aveugle, quand on se retourne, une fois qu'on a dit et qu'on se bat pour l'avoir, ok. Mais après, les virer un après l'autre, c'est ça notre job. C'est de virer tous les gens qu'on a choisis, un après l'autre, pour regarder le meilleur. Mais en fait, on devient pote avec eux, pas
c'est
trop,
compliqué.
Et c'est très difficile.
Et Louane vous a choisi comme coach ?
Ouais.
Vous êtes fier de son parcours ?
Bien sûr, ouais. Mais j'ai tout de suite senti que...
Oui, vous avez eu beaucoup de flair. Hein.
Oui, et puis ouais, je la voulais
absolument.
Parce qu'elle
avait une voix timide, etc.
Oui, mais j'adore ce genre de voix.
Ouais. Bah ouais, c'est le rapport à Carla Bruni, toutes ces femmes.
Voilà, voilà, c'est ça.
Léa Landau a des questions à vous poser, Louis Bertignac.
Oui, Louis Bertignac. Alors évidemment, dès qu'on dit téléphone, on pense essentiellement à vous et à Jean-Louis Aubert. Je suis donc allée le voir pour qu'il me donne des infos inédites sur vous et surtout sur la fin de téléphone.
Ah.
Bonjour Jean-Louis Aubert. Alors vous le trouvez comment, Louis Bertignac, depuis la fin de téléphone ?
Épanoui. Bon, il y a encore du boulot.
Bon. Et pourquoi vous vous êtes séparés ?
Il n'est jamais venu en studio.
Ah ouais, non, là je comprends, s'il n'est jamais venu en studio, il était du genre à pas bosser quoi en fait. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit pour mettre fin au groupe téléphone ?
C'est fini.
Ah oui, c'est tout, vous lui avez dit c'est fini et vous êtes parti ?
Je pense que je l'ai quitté vers 3h du matin.
Ok, non mais je voulais pas rentrer dans les détails Jean-Louis Aubert, je pense que c'est un sujet sensible pour vous deux.
Non, je vais vous raconter la suite.
Ah ok, donc vous l'avez quitté, triste j'imagine, à 3h du matin et...
Et je me suis réveillé dans les bras d'un... SDF Black, dans le 13e, vers 5h du matin.
Ah oui, carrément. Et vous avez fait quoi, Jean-Louis Aubert ?
Je me suis laissé faire.
Ah bon ? Mais pourquoi ?
Je suis assez gay la plupart du temps.
Donc vous êtes sûr que vous n'aviez pas pris un truc pas très légal ce soir-là ? Non, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, à l'époque, les rockers, ça carburait aux substances illicites. Mais il paraît que Louis Bertignac était contre lui.
Je ne l'ai pas écouté de nombreuses fois, je dois l'avouer.
Ok, scoop. Et sans vouloir être indiscrète, Jean-Louis Aubert, cette substance illicite, vous l'aviez trouvée où ?
Au bureau de tabac en bas de chez moi.
Il a quand même l'air beaucoup plus sage que vous, Louis Bertignac.
Il est aussi triste qu'un piano noir qui joue pas.
Mais bien sûr, ah, bien sûr. Alors que vous, évidemment, vous êtes...
Heureux et fier.
Oui, bah oui. Mais enfin, que représente Louis Bertignac pour vous, Jean-Louis Aubert ?
C'est comme un ami, même s'il ne l'est pas encore.
Ok.
Merde, c'est pour quand alors ?
Donc en fait, depuis tout à l'heure, vous vous moquez de moi. En vrai, Jean-Louis Aubert, vous le kiffez, Louis Bertignac ?
Oui, moi je le trouve très lumineux. C'est quelqu'un, en le connaissant, qui met l'amour à un niveau...
C'est à ça à quoi je m'attendais. Et tant qu'on est dans l'amour et dans le partage, Jean-Louis Aubert, avant qu'on se quitte, un petit mot pour Anne Romanoff ?
Bisous à tes enfants.
Voilà. Merci Jean-Louis Aubert.
C'est vraiment lui en plus.
C'est vraiment les sons que j'ai récupérés partout pour raconter cette histoire.
Pas facile.
Ouais. Merci.
Beau travail.
Merci.
Louis Bertignac, ça se reformera pas téléphone ou il n'y a pas d'album prévu, même les insus, il y a pas.
Pas d'album prévu en tout cas. Il n'y a pas de tournée prévue non plus.
Vous avez envie ?
Mais voilà, j'en sais rien. Oui, c'était sympa cette tournée. C'était vraiment chaleureux. C'était magique. Je ne parle pas du.
Il y avait des gens de tous les âges, il paraît en
plus. Oui, ça c'était incroyable. Mais ça, c'est pas nouveau. Il y en a. déjà dans nos concerts, dans mes concerts, il y en a toujours, je reçois des mails qui me disent « t'es le seul sujet sur lequel je suis d'accord avec mon fils ».
C'est sympa. Vous savez que mi-décembre, tous les téléphones fixes vont disparaître, il n'y en aura plus. Et on espère que ce ne sera pas pareil pour le groupe téléphone.
On a disparu 30 ans et on est revenu, donc allez savoir.
On ne va pas encore attendre 30 ans pour vous reformiez.
Je ne sais pas dans quel état on se reformera alors.
Ouais.
Nos deux invités se fréquentent depuis très très longtemps puisqu'elles sont sœurs. Elles ont une belle carrière de journaliste et une passion pour l'écriture. Après avoir publié ensemble 3 livres à succès, les voilà au théâtre. L'une a écrit et mis en scène, l'autre joue la pièce comme des sœurs. Elles sont inséparables, Ariane et Béatrice Pasnay.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Ariane et Béatrice Pasnay. Donc vous êtes sœurs. Mm-hmm. Et vous vous entendez bien.
Ah, oui. Pourquoi ? Ça a l'air de vous étonner.
Non, mais c'est pas toujours le cas de toutes les sœurs.
Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais parce que d'abord, on se connaît depuis très très longtemps. Ma sœur a maintenant 65 ans. Moi, j'en ai 35. Bon, voilà, j'ai 35 ans en gros qu'on se connaît. Non, mais c'est vrai que oui, on s'est toujours plus ou moins entendu. Enfin, comme des sœurs. C'est-à-dire qu'on peut s'engueuler très très fort. Mais c'est ça qui est bien avec les sœurs. C'est qu'on peut se dire des horreurs. Et puis,
deux sœurs en plus.
Ouais. Et deux jours après, se réconcilier. Donc, travailler ensemble, c'est peut-être plus facile. Et puis, cette dame-là, cette petite dame qui est à ma gauche, donc ma sœur.
Cette jolie dame.
Cette jolie. Enfin,
grande dame, maintenant, on peut dire cette grande dame.
Cette dame, elle avait écrit une pièce de théâtre, pas du tout pour moi. Et puis elle m'a proposé de jouer dedans.
Ah, c'était pas pour vous au départ ?
Non, c'était pas pour moi au départ.
C'était pour qui ?
C'était pas pour quelqu'un en particulier. C'est une histoire d'amitié entre trois femmes.
Qui se retrouvent tous les ans pour célébrer la mort d'une amie, c'est ça,
voilà,
dans une maison ?
Exactement, ce sont des amis d'enfance. Et je cherchais une fille qui soit... D'abord, je cherchais à faire une bande. Et c'est compliqué de faire une bande au théâtre. Faire croire qu'on est amis depuis 35 ans, c'était compliqué pour moi. Donc je me suis dit, il me faut un appui. Et l'appui solide que je connaissais, c'était Ariane. Et je lui ai dit, écoute, voilà, il faut que tu fasses la fille de province qui soit la plus sincère et cash possible. Et puis après, je construirai autour de toi. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça marche bien, je suis contente.
Et alors, vous avez renoncé à être animatrice télé, Ariane Pasnay ?
Non, je n'ai pas renoncé.
Mais... Vous auriez le potentiel quand même d'animer une émission toute seule maintenant, avec l'expérience que vous avez.
Oui, non, mais peut-être. Mais en tout cas, j'ai...
On ne vous a jamais proposé ?
Si, mais on m'a proposé... En fait, le problème, c'est qu'on m'a proposé des choses qui ne m'intéressaient pas.
Quoi ? Des jeux ?
Ouais, voilà, des trucs...
Téléfoot ?
Ouais. Des choses qui ne m'intéressaient pas. Donc en fait, Gildas et Denisot m'avaient dit un truc. Dans ce métier-là, il faut toujours prévoir.
Une petite
ça
cagnotte.
Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Fais-toi une petite cagnotte. Et je me suis fait une petite cagnotte avec mes petites... comme un petit écureuil, avec ses petites noisettes. Ouais, voilà. Et j'ai gardé ça. Et donc, je me suis permise de refuser certaines choses en me disant peut-être qu'un jour, il y aura un truc qui m'intéressera.
Béatrice, qu'est-ce que ça fait quand on a une sœur qui devient célèbre comme ça ? C'est...
Vous voulez dire au théâtre ou
dans la vie ?
Bon, ça fait, on est plutôt content pour elle. Enfin, ouais. Ça, c'est la première réaction.
Ça l'a pas transformée, elle a pas eu la grosse tête.
Mais ça, si elle a des accès, non, évidemment, ça l'a pas transformée. Mais si elle avait des accès de melon, ça, je lui dirais très très vite.
Il paraît que vous lui dites la vérité.
Ah ben oui, ben heureusement, si moi je lui dis pas, qui va lui dire ?
Alors des fois, vous l'avez engueulé après une émission de télé ? Ça arrive ?
Non, pas émission. Non, ça
cherchez
pas arrivé.
Cherchez bien.
Mais, voilà. Ça, on n'est plus très jeune non plus, donc ça remonte à. Voilà, il faut que je remonte dans ma mémoire. Moi, non, j'ai pas le souvenir de l'avoir engueulé sérieusement. Enfin, sincèrement, je pense pas.
Et la radio, vous aimeriez faire de la radio, Ariane Pasnay ?
Ah, moi, j'aime beaucoup la radio. J'aime bien le côté, mais d'ailleurs, que j'ai retrouvé au théâtre, j'aime bien le côté artisanal. De la
côté
radio.
Équipe aussi.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est le côté.
Parce que vous n'êtes pas très individualiste, vous avez toujours fait des choses en binôme avec Marc-Olivier Faugier, avec Denisot, vous avez toujours eu un mentor en fait.
Oui.
Genre la bonne copine qu'on charriait à côté.
Ouais. Ouais, donc là, j'aime bien ce rôle-là.
Il vous manque un homme en fait pour.
Non, pas forcément, mais c'est vrai que j'aime bien moi bosser en bande. J'aime bien. Je trouve qu'on est plus intelligent et plus fort à plusieurs. Je suis pas très intelligente.
Ah bon ?
Ah bon ?
Ça dépend. Ici, c'est le contre-exemple.
C'est ça.
Ici, je suis pas sûre. Ouais. Christine Béroux a des choses
justement,
à vous dire.
En
parlant d'intelligence, de talent, de beauté.
Alors bonjour Ariane, bonjour Béatrice. Alors
bonjour.
Toutes les sœurs se ressemblent, mais toutes les femmes qui se ressemblent ne sont pas sœurs. Regardez-moi Nathalie Portman. Pourquoi vous riez ? Bon, c'est pas... Alors je me suis penchée sur les rapports entre sœurs à travers les âges et du coup j'en profite pour inaugurer une nouvelle rubrique. Les cours d'histoire de Christine. Ça remonte le niveau de l'émission. Alors, tout a commencé avec Adam et Ève. Ève avait une sœur.
On va voir mes parents.
C'est clair. Alors,
on mais c'est très intéressant. Ève avait une sœur, on le sait assez peu, qui s'appelait Marguerite. Et Marguerite aimait bien se déguiser en serpent. Et ouais, ça s'est très mal terminé. Bon, comme ma chronique, je pense. Alors, ensuite, à la préhistoire, il a 15 000 ans précisément, deux autres sœurs célèbres, Greux et Dru. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est pas des choses que j'invente pour la chronique. Voilà, alors elles étaient décoratrices d'intérieur. Il y avait un style très épuré, une attention toute particulière portée sur les imprimés muraux. Et là aussi, ça s'est mal fini à cause d'une divergence artistique sur la décoration des grottes de Lascaux. Ça vous plaît Tremble, Stéphane Bern. Alors, plus tard à l'Antiquité, on a bien sûr.
Ah oui, ça va vite. Hein.
Eh, va à la Renaissance, hein, direct.
On a la Première Guerre mondiale.
Il y avait Héra et Déméter à l'Antiquité, ça c'est vrai. Donc, respectivement, déesse de la fécondité pour l'une et des moissons pour l'autre. Alors aujourd'hui, ce serait l'équivalent des ministres de l'Éducation et de l'Agriculture. Alors, elles s'entendaient pas super bien. On les a vues pas mal s'engueuler dans TPMP. Hein, touche pas à mon Parthénon. Ouais, c'était une émission de l'époque. Faisons maintenant un autre bond dans l'histoire.
Oui,
faisons.
Alors, Valérie Giscard d'Estaing.
Les sœurs Boleyn. Vous connaissez les sœurs Boleyn?
Bien sûr.
Voilà, elles ont toutes les deux été maîtresses du roi Henri VIII.
Alors, Anne Boleyn, même.
Ouais, alors il y a une des deux qui va réussir à l'épouser, mais après, elle sera condamnée à mort par son propre mari. Et personne ne dira rien parce qu'il n'y avait pas le hashtag MeToo ou le hashtag balance ton château fort. Oui, bien. Alors ensuite, les sœurs Bronté. Les sœurs Bronté.
Oui, Jane, Émilie.
Voilà, trois filles élevées dans la pauvreté qui chacune vont écrire un chef-d'œuvre de la littérature anglaise. Alors, il paraît qu'il ne faut pas dire que c'était mieux avant. N'empêche, je voudrais bien comprendre comment on est passé des sœurs Bronté aux sœurs Kardashian. Ensuite, alors là, c'est très intéressant. Les sœurs Mitford. Est-ce que vous connaissez les sœurs Mitford?
Ouais. Non.
Ah, et ben elles ont vraiment existé. Elles ont été six. Elles sont nées au début du XXe siècle. Il y a eu Nancy et Déborah qui ont été des auteurs à succès. Pamela, qui s'est engagée dans la lutte pour le droit des animaux. C'était ma préférée. Diane et Unity, qui ont mal tourné parce qu'elles ont rejoint le nazisme. Et leur autre sœur a épousé le neveu de Winston Churchill. C'est quand même assez dingue. Toute cette sœur. Bon, okay.
Moi, je suis le seul qui comprenne rien. Oui.
Et alors leur père, a dit d'elle, je suis normale, ma femme est normale, mais mes filles sont toutes plus folles que les autres. Les unes que les autres. Bon,
alors... c'est une chronique du futur, c'est alors... rare.
Parce que moi d'habitude je fais les quiz, tout ça. Et ensuite, alors... au cours du XXe siècle, il y a eu beaucoup de sœurs qui ont formé des groupes de musique. Il y a eu les Andrew Sisters.
Ah oui,
c'était ça. Il y a eu les Last Ketchup. Voilà. Et puis il y a eu ma sœur et moi. Ouais, on s'en fout. Voilà, les sœurs ont marqué l'histoire, se sont portées entre elles, se sont inspirées. Les sœurs sont l'avenir de l'homme, même si parfois derrière des sœurs il y a un grand homme. Les sœurs avaient beaucoup inspiré Michel Legrand et quelque part les sœurs Massenet, vous êtes aussi. De sœurs jumelles, sous le signe
des gémeaux, face à la mireille. Merci Christine, vous avez une sœur donc vous.
Oui.
Comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Nathalie.
On aimerait bien la rencontrer.
Ah oui, voilà.
Est-ce qu'elle est aussi folle que vous?
Oh là là.
Quel est le public qui vient voir Ariane Massenet? Des gens qui vous ont connu à la télé, des gens qui viennent par hasard, qui sont attirés par le titre?
Alors ça je sais pas trop, Béa peut-être pourra plus répondre à ça. Je vois un peu de tout, j'ai trouvé. Jusqu'à présent, non. Il y a du jeune, du vieux.
Vous avez quand même un côté toutes les deux BCBG quand même.
Mais nous sommes BCBG.
Il faut l'assumer. Non mais on est bordelais. Ouais. Toute notre famille est bordelaise, donc on est
bassin d'Arcachon.
Bassin d'Arcachon, le Gers, c'est très sympathique, on aime beaucoup tout ça, c'est épatant.
Le tennis,
c'est épatant. Le tennis.
T'as jamais joué au tennis?
Non, j'ai jamais joué au tennis. Non, mais oui, on peut pas renier ce qu'on nous sommes, c'est-à-dire oui, un petit côté.
On a des pianos maintenant, on a des
un petit côté bourgeois.
Enfin, on s'est mis au solfège.
Bourgeoisie bordelaise, BCBG.
Absolument.
Mais un peu loufoque.
Un peu comme mademoiselle et sa sœur. Comme la perchitude. Un peu moins quand même.
Peut-être pas autant.
Oui, c'est ça, parce que là c'est très très perché.
Et Béatrice, vous, ça vous a pas dit de jouer dans votre pièce avec votre sœur? Non,
non, non, moi j'ai pas du tout envie de jouer. Ce que j'adore, c'est écrire pour les autres et mettre en scène et tout ça. Ça, c'est vraiment marrant.
Ouais. Quels sont vos projets, Ariane Massenet?
Eh ben dis donc, ça c'est pas rien. J'ai jamais fait ça, dis donc, alors quand même. Je viens juste de commencer.
Oui, mais là, je sens qu'il y a des choses qui vont vous arriver. Je le sens. Oui, je suis très intuitive.
Ah, ben Dieu vous entende. Je ne sais pas.
Il l'entend.
Non, mais moi, alors encore une fois, je fonctionne aux rencontres. Donc là, j'adore ce moment. J'adore cette nouvelle vie, en fait. Mais que vous connaissez bien mieux que moi. Mais je trouve le fait d'avoir le trac qui monte, de se préparer, d'aller au théâtre, après d'avoir envie de mourir, puis après d'avoir envie
c'est sympa.
Non, mais c'est vrai. Après, on est hyper content. temps. Après, on va. Il y a des gens qui nous disent c'est super, et puis on va dîner avec des gens, et voilà.
Je vous conseille de pas dîner tous les soirs, sinon vous allez grossir.
Alors, je le sens déjà. Voyez-vous. Ça fait 5 jours. Voilà, ça fait. Je le sens déjà. Non,
parce que vous allez dîner tous les soirs.
Pas pour l'instant, oui.
Ouais, vous faites genre l'actrice. Vous oui. Couchez à pas d'heure.
Oui. Oui, je bois, je fume, je m'intéresse.
Ah, plus rester grand-chose dans la cagnotte. Hein.
C'est pas faux.
Deux mètres de muscles et de sensibilité. 5 fois champion du monde de natation, recordman de France aux 50 mètres d'eau, recordman d'Europe aux 100 mètres d'eau. Celui qui fait chavirer le cœur des jeunes filles avec ses yeux bleus aux couleurs d'Europe 1. Il a aussi su nous surprendre dans Danse avec les stars. Il vient nous présenter son autobiographie 50 nuances de bleu, dans lequel plus que jamais il se mouille. Camille Lacour est avec nous ce matin sur Europe 1.
Bonjour.
Bonjour Camille Lacour.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1.
J'ai touché le fond de la piscine, petit pull marine.
Vous avez des conseils de natation pour Isabelle Adjani?
De s'entraîner.
De s'entraîner. Je suis ravie que vous soyez là, Camille Lacour. Je vous ai invité notamment pour que mes chroniqueurs voient ce que c'est que quelqu'un qui est tout le temps sous l'eau. J'espère qu'ils en prendront bonne note. Voilà ce que ça donne, Ben H, quand on travaille son corps.
Ouais. Camille, on est surtout là pour parler natation, c'est vrai.
Regarde, Jean-Philippe, ce que c'est qu'un physique de gendre de rêve.
Oh, ça, je suis pas complexé, moi, je suis quand même pas mal. Hein.
Il est pas mal dans sa chemise. Ouais. Ouais.
Vous trouvez qu'il est pas mal?
Bien sûr,
mal,
oui, il a une chemise de taille enfant. Mais...
Il a une chemise taille enfant. Et Ben H, vous le trouvez comment?
Décoiffé.
Voilà. on prend une photo, on dirait avant-après.
Peut-être plus pour les fausses pilules sur Internet.
Alors, Camille Lacour, vous venez nous présenter votre livre 50 nuances de bleu. C'est une référence au livre érotique 50 nuances de grès et au film Le Grand Bleu. C'est un livre sur tout ce qu'on peut faire de coquin quand on est sous l'eau.
Non, c'était pas forcément le but. Le titre, c'était un petit clin d'œil, évidemment, aux deux environnements pour. Parce que pendant, dès que je suis arrivé au plus haut niveau, on m'a mis l'étiquette de beau gosse, donc c'était un petit contre-pied pour en rigoler. Et puis voilà, j'avais envie de raconter.
Vous en avez souffert d'avoir une étiquette de beau gosse?
C'est dur à vivre tous les jours.
Mais non,
non, je plaisante, bien sûr.
Je sais ce que c'est, hein, c'est pas évident. Hein.
Ça devait être en 2010 aussi.
Bim.
Et non, évidemment, il y a pire. Et c'est plutôt quelque chose de flatteur, mais j'ai commencé à être beau gosse une fois que j'avais gagné des courses. Quoi. L'année d'avant, j'étais 5e au championnat du monde. Sans médaille, j'étais beaucoup moins beau. Donc voilà, je pense que c'est d'abord le palmarès qui a fait
enfin,
que...
Vous aviez une bonne base quand même. Vous aviez toujours les yeux, déjà, et la taille.
Il n'y a pas grand-chose qui a changé en un an, seulement le résultat.
Et le regard des gens sur vous.
Voilà, exactement.
Alors vous racontez d'ailleurs une anecdote dans le livre, c'est qu'à un moment vous faites une émission de Patrick Sébastien et il y a une danseuse qui vous met la main dans le pantalon avec son numéro de téléphone.
Ah oui.
Non.
Une deuxième danseuse, une troisième danseuse, toutes avec leur numéro. Vous repartez avec une quatrième le soir même.
Puis le slip lourd.
Et le lendemain, vous retrouvez les téléphones et vous savez même plus quelle danseuse il s'agit et vous les appelez toutes.
Et il tombe sur Patrick Sébastien et la soirée a moins bien tourné que prévu.
Non, c'est vrai. En fait, je pensais même que c'était
une blague.
Ouais, une blague. Qu'elles se sont dit, peut-être il se la raconte. On va le.
C'était pas une blague.
Et du coup, je suis allé à fond dans la blague. J'ai envoyé le même texto aux trois numéros et en fait, c'était pas une blague. Mais c'est vrai que ça a été une semaine très agitée où j'ai vécu un truc un peu fou et surtout dans lequel je savais que je voulais pas me perdre et donc voilà, je l'ai fait.
Ça,
une
c'était
semaine pour
c'était
le faire
bon, une semaine, c'est ça. C'était juste après.
Après 2010, juste après les championnats, j'ai fait une semaine de médias
intensifs. Et
à
là,
Paris,
13 rendez-vous en une semaine, c'est ça?
C'est ça, oui.
13 rendez-vous de femmes.
Ouais, c'est pas très glorieux.
Ça fait même pas 2 par jour. Hein. Enfin,
j'ai raté.
Il y en a une qui l'a emporté ou pas quand même?
Non, là-dedans, non. C'était. Enfin voilà, c'est pas quelque chose dont je suis spécialement fier. C'était vraiment
un
déferlement. Mmh. Et au bout de 3 jours, je savais que c'est pas ce que je voulais faire. Mais vu que j'étais une semaine, je me suis dit quand même, on va aller au bout du truc.
Ouais, allons jusqu'au bout. Oh, c'est dommage qu'il arrête Patrick Sébastien.
Et ce livre, alors c'est une autobiographie Camille Lacour à 34 ans. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Normalement, à 34 ans, l'histoire de votre vie tiendrait sur la préface du livre. Et si vous voulez remplir les pages restantes, vous pouvez mettre des photos de vous, il n'y a pas de problème.
J'en ai mis quelques-unes.
Vous avez pris votre retraite, Camille Lacour.
Oui, en 2017.
Et vous faites du coaching?
Je fais du coaching.
Mais moi, je vous verrai mannequin.
Merci, mais
on vous a pas proposé de défiler, mais si.
Je suis trop grand.
Mais non, parce que vous êtes beaucoup mieux avec les cheveux longs. J'adore. Avec
la petite barbe.
Mais non. Et ben on va se laisser.
Non, avant vous étiez beau mec, d'accord.
Après
mais
les danseuses de Patrick Sébastien, Arumanoff. deux salles, deux ambiances, comme on dit. Hein.
Non, mais avant, vous étiez beau mec, mais vous faisiez sportif, quoi. Et là, je trouve, avec la barbe, les cheveux, vous êtes stylé. Moi, je vous verrais bien défiler. Pour
dans
des...
son salon.
Non, des... on vous a pas proposé, sérieusement.
Non, on m'a pas proposé. On m'avait proposé à l'époque, quand j'étais nageur avec Chanel, parce que j'ai eu la chance d'avoir... un partenariat avec eux, mais c'était très compliqué pour les affaires parce que 2 mètres, les mannequins ne font pas 2 mètres en fait.
Oui, mais ils peuvent faire des affaires spéciales pour vous.
Oui, bon, après, c'est pas forcément une carrière dans laquelle j'ai envie d'aller.
Non, mais pour du parfum, je vous verrais bien faire du parfum.
Si vous nous écoutez, je suis OK.
Vous avez été des géris de Clarins d'ailleurs pendant 7 ans.
Pendant 7 ans, oui, une très belle aventure. Je pense que ça a été mon premier sponsor et c'est surtout, il m'a amené une vraie sérénité. Parce que
financière, parce que les nageurs, il faut le dire, ne gagnent pas du tout comme les footballeurs. Quoi.
Non, clairement pas.
Il y a un moment, vous n'êtes pas dit Camille Lacour, je me suis trompée de sport.
Si, tout le temps.
C'est vrai. Tout le temps. Camille Lacour est très gentille, il vient de baisser son siège pour être à la même hauteur que Ben H.
Sauf que moi, je suis debout. Donc,
Vous mesurez combien, Ben H?
1,75.
Et monsieur, 2 mètres, Camille Lacour.
2 mètres pile poil.
Pile poil.
À partir de quel âge vous avez mesuré 2 mètres?
Et je sais pas, aux alentours de 16-17 ans, je crois.
Vous dites que ça a été compliqué au début pour embrasser les filles dans les slows, fallait vous casser en deux, c'est ça?
C'est vrai, y a pas eu que ça, mais c'est vrai que quand on est dans la puberté, on n'a pas forcément envie d'être à part. Et quand on mesure 2 mètres et une tête de plus que tout le monde, on l'est évidemment. En plus, j'étais donc très grand, très maigre, parce que j'ai grandi très vite.
Et avec des boutons.
Et les cheveux brûlés par le chlore. Ouais, c'était pas gagné à cette époque-là. Et au fur et à mesure, ça a un petit peu évolué, et tant mieux pour moi.
Alors Camille Lacour, dans ce livre, vous racontez les coulisses de la natation, vous évoquez vos états d'âme, par exemple, vous employez le terme de mélancolie du vainqueur.
Oui, c'est parce que c'est un sentiment auquel je m'attendais pas du tout. Et c'est la première fois que je gagne, j'ai toujours vu les grands champions, j'ai toujours été fan de tous les sports. Et je voyais toujours les grands champions lever le bras, taper dans l'eau, hurler. Je me suis dit, ouais, ça doit être tellement intense comme joie. Et une fois que ça m'est arrivé à moi, je me suis dit, bah, ça va arriver. Je vais avoir cette joie extraordinaire et tout. Et en fait, non.
Il faut, c'est du courage quand même, une carrière de sportif, de natation de haut niveau. Il y a le chlore déjà. C'est à cause du chlore que vos yeux sont délavés.
C'est ça. J'avais les yeux marrons avant. Les yeux marrons.
Bah à la base, il est sénégalais, le gars. Donc...
Du coup, ça vous fait rêver quand les gens disent « Ouais, viens chez moi, j'ai une piscine. » Qu'est-ce que vous dites ? « Ah non, j'ai pas envie de bosser ce week-end. »
Non, mais le nombre de défis que j'ai eu à relever dans des petits repas qui étaient bien arrosés. Et à la fin du repas, ils disaient « Non, mais dans ma piscine, je te bats, je suis à domicile et tout. » Donc j'ai gagné beaucoup de belles bouteilles grâce à ça.
Ils sont fous, ils croyaient vraiment qu'ils allaient vous battre.
Non, ils y croyaient pas, mais juste pour jouer. Donc ouais. Moi, vu que j'avais pas forcément envie de travailler pendant les soirées, je disais « Ok, mais par contre, cette bouteille a été très bonne, si t'en as une deuxième dans la cave. » Je repars avec. Et je suis reparti avec beaucoup de bonnes bouteilles.
Qu'est-ce que vous auriez voulu avoir que vous n'avez pas eu? Alors, il y a les Jeux Olympiques que vous n'avez jamais réussi. Ça reste quand même une amertume, Camille.
Ouais, amertume, une grande déception. Je pense que ça fait partie de ma carrière. C'est comme ça. Je pense que ce dont je suis le plus fier dans ma carrière, c'est d'avoir rebondi après chaque échec. Malheureusement, les échecs sont tombés pendant les Jeux pour différentes raisons. Mais voilà, c'est vrai que c'est le truc le plus triste de ma carrière. De pas avoir une médaille.
Et alors, Camille Lacour, vous correspondez quand même à beaucoup de critères universels de beauté. Vous passez même le test ultime. Même avec un bonnet de bain, vous êtes beau. Même avec le fameux maillot moule burne, vous restez sexy. Et est-ce que cette beauté, ça a été un handicap? Parce que moi, je vous comprends, j'ai le même problème que vous.
Oui.
C'est terrible à vivre. Je vous assure que des fois, je me dis que j'ai de la chance. Imaginez si j'avais le physique d'Angelina Jolie, je serais terriblement mal dans ma peau.
Non, c'est vrai que c'est très dur. Surtout que bah, du coup, tout le monde me connaît en maillot, donc je suis obligé de me balader tous les jours en maillot, donc c'est un peu fatigant, mais sinon ça va. Maintenant, j'ai réussi à m'y faire avec l'âge.
Camille Lacour, quand vous étiez plus jeune, vous aviez inventé un service de livraison à domicile. Quelque part, avant Deliveroo, vous avez eu cette idée-là?
Ouais, j'ai eu cette idée-là, c'était en 2008. Donc j'ai hésité, j'ai été blessé plusieurs fois, j'avais eu un zona, ce qui m'a enlevé toute chance d'être qualifié aux Jeux Olympiques. Et donc, je me suis dit, je vais arrêter de nager parce que j'avais eu l'appendicite 2 ans avant. Et je me suis dit, en fait, mon corps ne tient pas la pression que je me donne dans le sport. Et donc, j'avais décidé de partir dans le business. Et je m'étais dit, moi qui étais feignant, qui n'aimais pas faire la cuisine, mais qui aimais bien manger, j'avais contacté un ami à moi qui tenait un magasin de scooters pour avoir location de 5 scooters. J'avais contacté tous les restaurants que je connaissais, c'était à Canin-Roussillon, pour livrer. On avait commencé à faire la carte et entre-temps, il y a Marseille qui m'a appelé et j'ai décidé de continuer la piscine. Mais sinon, ouais, j'avais le projet de commencer Deliveroo. Ça n'existait pas à l'époque.
Vous regrettez ou...
Non, je pense que je serais peut-être plus riche, mais bon, les émotions que j'ai vécues, elles étaient extraordinaires.
Alors Camille Lacour, vous êtes née en 85, vos deux parents sont facteurs. Ça n'aurait pas été plus logique d'être cycliste?
Peut-être.
Alors, en plus, vos parents ont été très gentils parce que vous étiez un petit garçon asthmatique, c'est ça ?
Ouais, en fait, je suis né à Narbonne, dans le sud, et mes parents se sont rencontrés à Paris. Donc, dès que je suis né, je suis remonté à Paris et j'avais des bronchites asthmatiformes. Et pour éviter ça, ils ont décidé de partir à la montagne où il y a moins d'acariens, donc moins d'allergènes. Et c'est pour ça que je suis arrivé à Fort-Romeu et c'est là où j'ai commencé ma carrière. Enfin, ma carrière au début, c'était de la piscine, mais ça allait rester tout le long.
Oui, mais on vous a repéré tout de suite, en fait. Comment et ça s'est passé ?
Alors, je suis allé la première fois à la piscine. Ce que je raconte dans le livre, c'est avec la voisine. Un entraîneur voit à quel point je vais aller dans l'eau et dit à ma mère, mais laissez-le y aller. Il n'a pas de maillot, il a laissé le y aller en slip. Et j'ai plongé dans le grand bain et je me suis accroché à la ligne, mort de rire. Je passais sur l'autre ligne, donc voilà. L'eau, c'était déjà mon élément.
Mais vous saviez pas nager ?
Bah non.
Vous auriez pu vous noyer ?
Bah ouais, il était là, le mec était à côté, c'est son job. Mais, et ce qui est drôle, c'est que cet entraîneur m'a entraîné jusqu'à mes 20 ans.
On peut citer son nom à l'antenne ?
Oui, Richard Martinez, un très bon entraîneur. C'est celui qui a fait ma carrière. Le tout début, il a fait toutes les fondations. Et puis,
vous le voyez toujours ?
Je le vois toujours, de temps en temps, et toujours à la fédération. Donc,
et après,
croise.
Vous le quittez quand vous avez 20 ans pour finir ?
C'est lui qui me quitte, en fait.
Pourquoi il vous quitte ?
Parce qu'en fait, je faisais trop la fête. Et il me vire.
Non, vous faisiez l'andouille dans les boîtes et tout ça.
C'est ça, je faisais l'andouille dans les boîtes.
Qu'est-ce qui a été le déclic ?
Bah lui, quand il m'a viré, déjà, il a touché mon orgueil et ça m'a pas trop plu. Donc j'ai décidé de partir avec Philippe Lucas. Et là, je me suis dit vraiment, je vais voir ce que
l'entraîneur
j'ai dans le ventre.
De Laure Manoudou.
L'entraîneur de Laure Manoudou.
Et là, vous en avez chié.
Et là, j'ai vu ce que c'était que nager beaucoup. Donc voilà, il m'est arrivé de nager des semaines plus de 100 km.
Et à un moment, il y a une équipe de télé qui vient et Philippe Lucas, devant les journalistes, vous vire.
Oui.
Et pour, en fait, en vous disant, en vous insultant devant les caméras.
Oui, bah comme Philippe il fait, je pense que tous les gens qui connaissent Philippe Lucas savent comment il réagit quand il vire quelqu'un de la piscine. Et nous, on savait quand on arrivait sur le bord du bassin, quand il envoyait une équipe de caméras, qu'on avait passé une journée de merde. C'était
dès
évident.
Dès qu'il était filmé, il devenait odieux.
Ah, il devenait odieux, mais c'est son personnage. Et du coup, je le raconte dans le livre, il me vire. Je comprends pas, on s'était jamais embrouillé. On a toujours été. Il y a toujours une très très bonne entente. Et quand il me vire de l'eau, je prends ma douche et je le vois arriver comme une bombe dans la douche. Et je dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi tu m'as viré ? Il me dit, non, mais franchement, je suis pas un acteur exceptionnel.
Alors, vous êtes spécialiste, Camille Lacour, des épreuves de dos. Vous aimez pas les épreuves de face ? Parce que vous dites que vous êtes dosiste, mais c'est bizarre, dosiste.
C'est le nom qu'on donne à ceux qui font cette nage, mais j'étais pas trop mauvais sur le ventre non plus, mais là où j'avais le plus affinité, c'est sur le dos.
Moi pareil, ouais. Je suis dosiste, j'adore être allongée. Je suis championne toute catégorie des 3 mètres marche libre entre mon lit et le frigo. Ouais.
Très bien. Il y a une spécialité étoile de mer aussi.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours peur de me prendre le mur quand je fais du dos crawlé.
Il faut savoir qu'il y a des drapeaux en fait à 5 mètres du mur.
Ah voilà, ok. Voilà. Mais
ils
donc faut voir sur le côté.
Non,
ça, à quoi boulevard.
Ah, au-dessus.
Ah, à quoi boulevard. Ouais.
Non, non,
et en plus, toutes les demi-heures, il y a des vagues. C'est un truc.
vous continuez, Camille Lacour, à nager pour votre plaisir ou
Non, très peu. Très peu. Je vais souvent à la piscine parce que ma fille adore ça, étrangement. Mais par contre, faire des longueurs pour faire des longueurs, j'ai tellement atteint un domaine d'expertise là-dedans que y aller pour me faire plaisir, j'y arrive plus. Quoi.
Donc c'est vous qui avez donné des cours de natation à votre fille, j'imagine ?
J'y ai juste appris à flotter et après pour les cours de natation, je l'ai mis dans un club et c'est pas à moi de le faire. Moi, c'est le côté ludique et pour apprendre à nager, je pense que c'est avec un professionnel.
Un professionnel ?
vous conseillez ça aux parents de faire apprendre à nager avec un moniteur de natation ?
Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de lui obliger à faire quelque chose. En fait, moi, quand je vais à la piscine, c'est pour m'amuser avec elle, c'est pour aller chercher des trucs sous l'eau, faire des trucs ludiques. Après, y apprendre à nager avec une planche et tout ça, je pense que c'est bien d'être encadré.
Par
et c'est
un
pas
professionnel.
Moi, je préfère avoir le rôle de papa plutôt que ça et je laisse aux gens qui font ça très très bien.
Voici quelqu'un qui
fait ça très très bien.
Qui est un très bon papa. La natation, je ne sais pas, c'est Jean-Philippe Visini. Il a des choses à vous dire, Camille.
Mais oui, parce que moi aussi, je compte publier mon autobiographie sur les coulisses de la radio.
Ah bon ?
Oui, parce que je vais écrire un livre et je vais tout balancer.
Oh là là.
Parce que vous, dans votre livre, Camille Lacour, vous parlez de la rivalité qu'il y a entre les nageurs. Et bien, nous aussi, dans l'équipe, je compte plus les coups bas et la rivalité qu'il y a entre ces chroniqueurs, hein, entre Christine Bérou qui tous les matins rajoute du sucre et de l'huile d'olive dans le café d'Anne Roumanoff pour essayer de lui saborder son régime.
C'est pour ça que je maigris pas.
Et ben oui, parce qu'elle est jalouse de votre taille de guêpe. Et ben oui, Ben H là, qui essaie de, tant qu'il peut de nous faire croire qu'il est un éternel séducteur pour nous complexer. C'est ça en fait. Hein, alors que la vérité, c'est que la dernière fois qu'il a embrassé une fille, c'était en CM2. Hein. Avoue-le quand même. Maintenant, il faut que Camille Lacour, vous racontez dans votre livre que grâce à votre statut de nageur beau gosse, vous étiez très sollicité sexuellement par vos femmes, par vos fans. J'imagine que vous en avez dû en avoir au moins 70, 80. Et ben moi aussi, en tant que chroniqueur, l'autre jour, j'ai été sollicité par une fan du Public qui devait en avoir au moins 70, 80. Mais oui, on a beaucoup de points communs, Camille Lacour. Dans votre livre, vous parlez de la mélancolie du vainqueur. Quand on connaît une ascension fulgurante, ensuite la descente n'est plus que solitude. Vous savez, moi aussi, j'ai connu une ascension fulgurante. Quand l'autre jour, dans cette émission, Anne, vous me demandiez quel personnage de dessin animé j'aimerais être, et je vous répondais Rémi sans famille. Vous me demandez alors pourquoi, et je répondais du tac au tac, parce que Rémi sans famille, il a pas de belle-mère. Et là, à partir de cette blague à la qualité incontestable, je vois dans les yeux des autres chroniqueurs l'admiration. Anne Roumanoff n'ose pas me le dire, mais à quel point elle a envie de crier au génie. Oh, quel génie! Mais après ça, comme vous, Camille Lacour, j'ai connu la solitude du champion. Je rentre chez moi, seul. Je veux fêter cette victoire, cette bonne vanne. Je veux faire des crêpes. J'essaie de faire des crêpes, mais comme la recette que je connais, c'est une recette pour 4 personnes, alors je me dis c'est pas grave, j'ai décidé de tout diviser en 4. Il disait mettre 400 grammes de farine, j'ai mis 100 grammes. Mettre 1 litre de lait, ben j'ai mis 1 quart de litre. Ajouter un œuf. Ah ben là j'ai galéré là hein. Ah ben couper un œuf en 4, j'aimerais bien vous y voir. C'est là que j'ai compris l'expression se couper en 4 pour y arriver. Oh là là, c'est intellectuel aujourd'hui. Alors, j'ai tout recommencé à zéro et j'ai décidé de faire une pâte à crêpes pour 4 personnes. Et j'ai invité mes amis, mes voisins à manger des crêpes. Et c'est là que j'ai réalisé que quand on a du succès, le plus important, c'est d'être bien entouré. Oh là là. Oh là. Oh là. Oh.
Alors, en 2011, Camille Lacour, vous devenez champion du monde ex aequo. C'est pas un peu frustrant?
Je me suis souvent posé la question avant de l'être. Est-ce que compliqué de partager une médaille? Et en fin de compte, une fois que je l'ai eue, on ne partage pas la médaille. Et on a un titre chacun. Ce qui est important, c'est les...
Vous avez chacun une médaille?
On a chacun une médaille et puis on est chacun champion du monde, en fait. Ok, on l'est tous les deux en même temps,
ça
mais
me
c'est
fait
pas...
Ça penser un peu à celui qui gagne l'euro million, puis ils sont deux, ils partagent la cagnotte en deux. Là, un peu.
Ça, j'aimerais bien vous dire quelle sensation ça fait aussi.
Mais sûr, ça doit être quand même, c'est à la demi-seconde près. Enfin, on parle
au centième.
Centième. Vous dites, je me serais coupé un doigt de pied, j'aurais été plus vite. Il n'y a pas un moment où vous dites si j'avais...
Peut-être, mais franchement, on nage pour être champion du monde et on l'est. Et on ne partage pas un titre. Et c'est vrai que je me suis souvent posé la question avant, et je vous assure sans langue de bois que j'étais très heureux d'être champion du monde, et ce n'est pas grave si on était deux.
Alors Camille Lacour, en 2015, vous inaugurez votre statue au musée Grévin. Mm-hmm. Ils en ont fabriqué combien de statues? Ils en vendent? Ce n'est pas pour moi, c'est pour une amie qui veut me l'offrir pour mon anniversaire.
C'est vrai que j'étais flatté d'avoir... Ma poupée de cire
Et elle est
musée.
Torse nue, ça vous gêne pas qu'on vous ait dit on va mettre votre statue, mais par contre vous serez à moitié nue?
Non,
parce que ça aurait été une femme, ça aurait été gênant.
Bah,
ça dépend quelle femme.
Si Lorma Nodou avait eu sa statue, elle aurait été en maillot de bain. Je pense que Teddy Riner, il est en.
Ils l'ont un peu échancré, le maillot de bain. En plus, on voit.
Non,
plus.
C'est exactement.
C'est comme ça,
c'est mon maillot de bain.
Dis donc, si elle avait des longs
poils, j'ai travaillé sur ça.
T'as vachement potassé le truc, toi.
Ouais, c'est une statue qui m'a marqué. Voilà,
Ah oui. D'ailleurs, il y a ta trace sur la statue encore. Là, ils sont en train d'essayer de la récupérer.
Donc, en juillet 2017, Camille Lacour, vous êtes encore champion du monde. Et là, vous mettez fin à votre carrière. Parce que pourquoi?
Parce que je commence à devenir vieux. Parce que je commence
Vieux, vous avez 35 ans.
Pour la natation, ça commence à faire tard. En 2017, j'ai 32 ans. Et le corps commence à tirer. Et puis l'esprit aussi, j'avais envie de faire autre chose. Je pense que j'avais fait le tour de toute ma carrière. J'avais réussi à gagner de nombreux titres. Il n'y en a plus beaucoup que je pouvais aller chercher. Le seul qui me manquait, c'est le titre olympique. Et c'était beaucoup trop loin. Et donc voilà, ravi de raccrocher le maillot et de passer à autre chose.
Et alors après, vous avez fait Danse avec les stars. Comment on passe de la brasse au tcha-tcha-tcha?
Surtout de.
Vous avez dit en natation, le but était d'être le meilleur, là c'était plutôt d'être le moins mauvais.
Ouais, c'est exactement ça. Je savais que j'allais être mauvais en fait, c'était pour ça que j'avais envie de me lancer le défi en me disant de toute façon je vais pas rester longtemps. Et en fin de compte, je pense que les gens qui regardent Danse avec les stars sont un peu sadiques. et aimait bien me voir galérer tous les samedis, il devait rigoler. Et donc, il votait pour moi. Et donc, je suis resté 7 prime, je crois. Et donc, à la fin, c'était quand même un long chemin de croix. Au début,
et maintenant,
je me suis
ça vous a fait faire des progrès en danse?
Non, même pas en plus.
Ah bon?
Bah, si, une danse de salon, mais j'ai rarement fait ça en boîte.
Camille Lacour, Léa Londo a des questions à vous poser.
Oui, Camille Lacour. Alors, bon, vous avez écrit 50 nuances de bleu, un titre qui nous plonge non pas dans une piscine, mais dans un imaginaire un peu coquin. Je vous ai donc, moi, préparé une interview SM, Camille Lacour. SM qui signifie évidemment sans mentir. D'accord.
D'accord.
Est-ce que une Kaira vous a déjà mis? Hey Camille, ton père c'est un voleur, il a volé tout le bleu de la piscine pour le mettre dans tes yeux.
Dieu merci, non.
Camille Lacour, vous la faites souvent ou ce sont les femmes qui vous draguent?
Je pense qu'il y a eu un peu des deux, selon les années.
Alors vous faites 2 mètres, on l'a dit, mais c'est 2 mètres de muscle, 2 mètres de tendresse ou 2 mètres de trop pour vous?
Les deux premiers.
Ouais. Film culte, Le Grand Bleu, La Piscine avec Alain Delon ou Le Grand Bain?
Le Grand Bleu.
Le Grand Bleu.
J'ai pas encore vu Le Grand Bain.
Ah,
c'est,
il est super.
C'est en cours.
Ok. Je rappelle qu'on est dans une interview SM qui veut dire sans mentir. Camille Lacour, vous êtes déjà dopée?
Non.
Et en vous épilant, vous avancez vraiment plus vite?
En se rasant, mais oui.
Ah, vous vous rasez? Non, je me demandais.
Je me rasais juste pour les grandes compétitions, mais ça, même si vos collègues ici plongent avec les poils et se rasent et replongent sans les poils, il va y avoir une sensation différente.
Vous pourriez sortir avec une fille qui ne sait pas nager, Camille Lacour?
Oui, complètement, ça ne rentre pas du tout dans les critères.
Vous avez déjà nagé avec des dauphins?
Non, mais c'est prévu pour les grandes vacances.
Parce que j'aimerais bien savoir qui va le plus vite.
Bah quand même, c'est les dauphins.
Vous pourriez faire de la natation synchronisée, Camille Lacour?
Non.
Non?
Non, je suis pas du tout. Bah, vous avez vu mon sens du rythme déjà. Et non, il faut être super souple. C'est très très dur comme sport.
Piscine à l'eau de mer ou chlorée?
Chlorée, l'eau de mer, ça irrite en fait. On y restait tellement de temps que.
Vous pensez quoi du retour de Florent Manaudou?
Je pense que ça va être de belles émotions pour la France et de belles médailles en perspective.
Vous pensez qu'il va réussir?
Ouais, j'en suis.
Mais
j'en
il a arrêté
persuadé.
Quand même pendant.
Il a arrêté pendant 2 ans et demi, presque 3 ans, mais il a fait du sport et c'est un talent hors norme et. Et je suis sûr que dans 3 mois, il est déjà dans les 5 meilleurs mondiaux. Mais moi, je suis sûr que ça va être un retour gagnant. Il a pris de la maturité, il a pris de l'expérience. Il sait pourquoi il revient, c'est pour des bonnes raisons. Et ça va faire mal.
Et vous, c'est pas possible que vous reveniez, Camille?
Non, parce que j'en ai pas envie.
Mais voilà. Physiquement, ce serait possible?
Physiquement, ce serait compliqué, mais possible. Mais compliqué quand même.
Donc, avouez-le quand même, Camille Lacour, parce qu'Anne Romanoff vous parlait de vos beaux cheveux, etc. C'est après avoir vu Bradley Cooper dans A Star Is Born que vous avez fait la même coupe et la même barbe?
Non, même pas.
Parce que là, on dirait un frère de Bradley Cooper.
Franchement, il y a pire.
Ça, ah ouais.
J'accepte.
Il est beau gosse. Et si Anne Romanoff était une nage, Camille Lacour, ce serait laquelle? La brasse coulée, le papillon, la planche ou autre chose?
La bombe. La bombe.
Mais...
Superbe réponse.
C'est ça?
Comme elle veut.
D'accord.
Je sais pas, j'ai pas la réponse.
Bon, et votre projet dans les années à venir, Camille Lacour, votre retraite, vous la voyez où?
Je la vois pour l'instant à Paris pour des raisons familiales. Mais voilà, aujourd'hui, je fais des interventions en entreprise, du coaching pour les boîtes, où je fais le parallèle entre le monde du haut niveau et le monde de l'entreprise. Ça me plaît et j'ai envie de
continuer là-dedans. Vous voulez aussi monter un groupe de sportifs de haut niveau, c'est ça?
C'est ça. En fait, j'ai envie de monter une boîte d'événementiel avec des sportifs de haut niveau qui sont avec, où je pense qu'aujourd'hui, les gens qui recherchent plus des expériences que des voyages. Et essayer de lier le sportif avec des expériences. C'est-à-dire que si, par exemple, on va sur un rallye, essayer d'être avec un pilote qui nous explique comment ça se passe. Si on va sur une compétition de voile avec un navigateur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment les expériences qui priment. Et donc, je suis en train d'essayer de monter ça petit à petit.
Merci Camille Lacour.
Ben, merci à vous.
Elle est journaliste, écrivain, une ancienne de Sciences Po qui a plongé dans le grand bain des médias, radio, télé, avant de jeter l'encre sur le papier. Elle vient de publier son nouveau roman chez Grasset, La tendresse du crawl. J'ai déjà envie de me mettre à la natation. Applaudissements pour Colombe Schneck.
Merci.
Bonjour Colombe Schneck.
Bonjour à tous.
Bonjour. Ce livre est très touchant. Hein?
Merci.
Est-ce que l'homme l'a lu?
Bien sûr.
Et alors?
Il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que... ça lui avait donné foi en l'amour.
Waouh,
c'est beau. Il est revenu?
Ah, ça c'est une autre question. Non. Mais c'est pas l'objet de ce livre.
Non, bien sûr. Mais vous dites derrière l'accroche du livre, c'est à 50 ans j'ai découvert que j'avais un corps et que l'amour heureux est possible.
Oui. J'étais élevée, vous avez rappelé que j'ai fait Sciences Po, mais bon, j'étais élevée dans une famille où ce qui comptait c'était lire des livres. avoir une bonne éducation, remplir son cerveau, quoi. Et le corps n'existait pas. Le corps, c'était vraiment...
L'enveloppe du cerveau, quoi.
Presque. Oui, même pas. Disons que le sport, c'était pour les imbéciles. Vraiment, grosso modo, c'était ça qu'on me disait. Le corps n'existait pas. Et j'ai appris, grâce à cet homme, donc il y a très peu de temps, j'avais 50 ans, que le corps, que j'avais un corps. Hein. Et que ça avait autant d'importance que les livres que je lisais, que les journaux que je lisais.
Et ça a duré combien de temps, cette histoire ?
L'histoire, elle a duré un an, mais le corps, c'est pour toujours.
Ah.
Et ça m'a transformée. Et j'aurais aimé qu'on me dise à 20 ans, vous allez rigoler, je vous dis ça, mais fais du sport, c'est important d'avoir un corps.
T'as compris, Yann ? Il n'est pas trop tard.
Il vous a initié au crawl, cet homme.
Alors, c'est pas seulement au crawl.
Oui, on a bien compris.
Pour moi, ça a été le crawl.
Oui,
ça a été le crawl parce que le crawl, c'est une leçon de vie, le crawl.
Ah oui ? Parce que moi, à chaque fois, je me noie.
Mais il faut prendre des cours.
Non, mais le crawl, c'est le pire parce que quand on avance sans savoir si on va
et
se cogner.
Et parce que si on apprend, c'est comme quand on apprend à lire. On apprend son corps et on apprend les gestes. On n'improvise pas de nager, on n'improvise pas de courir, on n'improvise pas de respirer. Enfin, si respirer, c'est instinctif, mais courir, nager, tout ce qui est l'ordre du sport, du geste.
Ça s'apprend.
Il y a des règles, il y a une perfection du geste et on l'apprend. Et en l'apprenant...
Mais vous n'avez pas que appris le crawl.
Bien sûr qu'il n'a pas appris. Mais en apprenant le crawl...
Vous avez bien compris qu'elle ne veut pas parler de natation.
Elle veut parler de sexe, peut-être.
Mais oui, évidemment.
Mais bien sûr, mais c'est un rapport avec le sexe, avec
le crawl.
J'étais persuadée que le crawl, c'était une image depuis tout à l'heure. Moi. On parle vraiment de crawl, en fait.
Mais bien sûr, c'est un rapport. Comment vous pouvez faire l'amour si vous ne savez pas comment...
Crawler.
Fonctionne votre corps. Si vous n'avez aucun rapport avec votre corps. Et dans le crawl, on apprend un truc très important, parce que vous voulez parler de sexe.
Oui.
C'est qu'on apprend ce fameux truc que disent tous les gourous, qui pour moi, qui était absolument incompréhensible, qui était faut se laisser faire, faut se laisser aller, faut s'oublier, faut, comment on dit,
lâcher prise.
Ce truc qu'on vous dit en permanence, votre prof de yoga. Et votre,
moi, j'ai envie de mettre les doigts dedans, perso.
Voilà, on n'y arrive jamais. Lâcher prise, mais vraiment, mais impossible pour des filles comme nous. Un peu agité, ça n'existe pas.
Bah moi, je suis pas du tout agité. Hein.
Et puis moi, je suis pas du tout une fille, donc ça va.
Se relaxer, quoi. Ce truc.
Mais pourquoi ? Ça veut dire qu'avant, vous étiez rigide.
Non, mais j'étais une espèce de combattante permanente dans l'action. Et pour revenir à l'amour, comment pouvez-vous vous laisser aimer, faire l'amour si vous êtes incapable de.
De vous laisser aller.
De vous laisser aller. Et le crawl, moi, m'a appris ça.
Alors, il faut expliquer quand même aux auditeurs que ce n'est pas du tout un livre sur la natation.
Non, c'est métaphorique.
C'est aussi un livre sur la natation, mais c'est
un livre
sur l'amour.
C'est un très beau livre, quand même, sur une histoire d'amour. Je me permets de lire un extrait, quand même. J'avais connu une succession d'hommes, pourtant je passais davantage de temps à imaginer l'amour qu'à le vivre. J'avais si peur de la réalité. Et puis je retrouve Gabriel, croisé au lycée à 15 ans. Tout au long de nos 9 mois d'amour, la peur revenait s'installer. Parfois, je l'imaginais avec une autre, le plus souvent disparu, blessé, mort. La première fois, il ne m'avait pas téléphoné pendant 24 heures. Le lendemain, il était là devant moi, me souriant, et moi, souriant de mon inquiétude.
Ça, quand on vit ça, on a l'impression qu'on est le seul ou la seule à être aussi idiot. Mmh. On se dit, mais vraiment...
20, non, moi j'hallucine parce que 24 heures et vous croyez qu'il est parti, que. Chaud quoi.
Je comprends tout à fait.
Non, mais moi une heure je pensais que ça y est, il était mort, qu'il y avait un problème grave.
Vous dites aussi, vous décrivez les hommes sur Tinder, vous dites l'homme de Tinder pose devant sa voiture rouge avec une coupe de champagne ou une canette de bière, il porte des lunettes de soleil, exhibe une partie de son corps, torse, ventre, épaules, fesses, il est à la plage, à la montagne, sur un canapé en cuir, devant un bureau, devant son beau camion, il regarde droit devant, sur le côté, baisse le regard, se prend en photo devant une glace avec son téléphone, avec ses enfants, sa femme, son chien, son chat. Il se nomme Karim, Laurent, Jean-Pierre, Cédric, Giovanni. Il cite Lao Tzu souvent, se décrète Carpe Diem très souvent. Il affirme au choix vive la vie est belle, heureux, avec plein de points d'exclamation. Il fait 1m85, en s'excusant de citer ce détail, mais on leur a confié que c'est important. Il se dit généreux, attentionné, sportif, divorcé, père de famille, marié. Il travaille au ministère de l'Intérieur dans le secteur éducatif, informatique, social, commercial.
Oh là là.
Oui, on le connaît.
Ah
là, on
s'est
simplement dit, je trouve cette description.
Ça sent le vécu. Vous avez déjà été sur Tinder,
Bien sûr.
Mais non, mais là, elle a emménagé sur Tinder. Qu'elle a vu.
Combien de temps vous êtes resté sur Tinder ?
Je passe en temps, allez, je reste 15 jours, 3 semaines, au bout d'un moment j'en peux plus, mais j'essaye, on sait jamais. Mais ce Gabriel, je l'ai retrouvé sur Tinder. Oh, en fait, on se croisait dans le quartier et on n'osait pas se dire qu'on...
Ça, vous ne l'avez pas mis dans le roman?
Si, je l'ai mis.
Ah d'accord, et je l'ai lu.
C'était un test.
On s'est retrouvés, en fait, ça a pas un moyen de nous dire bah, on était libres et capables de se retrouver. Voilà. Voilà.
Et vous lui avez dit, je t'ai vu sur Tinder?
On s'est vu sur Tinder et on s'est liké sur Tinder, comme on dit.
Ah ouais. Mmh.
Et après, ils ont crawlé, voilà.
Notre invité Colombe Schneck veut nous parler de son récit, parce que vous ne voulez pas dire roman, La tendresse du crawl. C'est un petit livre en plus qui se livre.
C'est facile à lire, hein, c'est court.
Très facile à lire, 106 pages. Et c'est vraiment un plaisir. Et j'adore, enfin moi, c'était un soir, vous racontez quand il vous a largué, c'était un soir de canicule. Il m'a annoncé que notre amour n'avait pas de sens, que nous ne pourrions rien construire ensemble. Nous venons de deux planètes différentes, m'a-t-il répété. Je me suis allongée nue sur le carrelage de la cuisine en attendant que la douleur s'arrête.
Oui.
Et puis ça vous touche parce que vous caressez votre gorge en même temps.
Hein. Sympa. Non, mais c'est vrai.
Oui, dans ces moments-là, on a l'impression qu'on est seul au monde, d'être la seule personne aussi pathétique et ridicule pour se faire larguer un soir de canicule. Et non.
C'est pas féminin, ça. Hein. C'est les mecs aussi. Hein.
Vous êtes fait larguer un soir de canicule.
Oui, plein de soirs. De soir.
Le matin, la journée.
Voilà, se sentir une merde, c'est pas une question de sexe. Hein.
Ouais. Ce livre, ça vous a aidé?
Non, ça m'a pas aidé. Ça c'est pas le livre qui m'a aidé. C'est-à-dire que quand je l'ai écrit pour me consoler, vous l'avez écrit pour vous d'abord, en fait.
C'est
oui,
ça
pour moi, en me disant que ça allait pour les garder ces moments qui étaient quand même des moments très heureux. J'ai vécu des moments avec lui très heureux. Et je voulais les garder, donc je les ai écrits pour les garder, et puis en pensant que ça m'aidait, mais en fait j'avais du chagrin en l'écrivant. Et c'est vraiment la natation qui m'a consolée. Et j'y ai trouvé dans la position de mon corps un apaisement, quelque chose qui me disait je pouvais être heureuse. Quoi qu'il se passe, je pouvais être heureuse.
Vous nagez toujours.
L'amour que je cherche, ça vous semblait un peu béat ce que je dis. L'amour que je cherche, il est en moi.
C'est sûr.
J'ai pas besoin de le chercher ailleurs. On n'est pas forcément obligé de le donner dans un. Il y a ce modèle du couple que l'amour, c'est que le couple. Mais il y a plein de façons de donner de l'amour et de recevoir de l'amour.
Bon, ça, c'est ce qu'on se dit pour se consoler
quand
on est tout
seul. C'est ce qu'on
se
dit pour se consoler. Mais en fait, non.
C'est vrai, mais c'est vrai.
J'ai un sentiment aujourd'hui d'être très heureuse. Et c'est pas du blabla, c'est pas du Lao Tzu et du Dalai Lama. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas.
Donc finalement, d'avoir tellement souffert, ça vous a fait.
Non, c'est pas la question de la souffrance. La souffrance n'apporte rien. C'est d'avoir pris possession de mon corps. Vraiment.
Et depuis?
Depuis, tout va bien.
Ah. Donc, vous avez retrouvé l'amour ou...
Elle est passée premium sur Tinder.
Voilà. Non. Ces sentiments de... Oui, d'un certain bonheur, oui. Oui, c'est vrai.
Je vous présente quelqu'un qui on ne sait pas si elle freine ou elle coule. Enfin.
Elle patauge.
Christine Béroux.
Oui, en fait, je suis très impressionnée par vous.
Bien sûr, il y a de quoi.
J'ai envie de tendre la main aussi et je recule. Oh là là. Et comment parle-t-on à quelqu'un qui nous impressionne? Eh bien, c'est l'heure de votre rubrique préférée. Les tutos de Christine.
J'adore ce jingle.
Le monde plus beau. Tout d'abord, face à une personne
qui... Tout est dans le jingle, vous allez voir.
Face à une personne qui vous impressionne, il faut savoir tout simplement vous présenter avec sincérité. Bonjour Colombe Schneck, je me présente, je suis la lectrice qui vous lit mais qui sait toujours pas écrire votre nom de famille. J'ai le même problème avec Nietzsche et Dostoïevski, mais j'ai aussi le même problème avec Traveiller, mais vous avez pas besoin de le savoir. Voilà, donc là, la personne est en confiance, il s'est créé quelque chose. Elle est pas forcément en haute estime, mais elle est en confiance. Ensuite, il faut expliquer à la personne pourquoi on l'apprécie, en laissant parler le cœur. Colombe, j'aime votre écriture descriptive, charnelle, désinhibée. Peut-être parce que dans écrivain, il y a vin, et que dans livre, il y a ivre. Enfin bon, ça veut rien dire, parce que dans chroniqueuse, il y a niqueuse, et ma vie est plutôt calme en ce moment. Voilà, là j'ai senti que je baissais un petit peu. J'ai utilisé une plaisanterie un peu paillarde. J'ai senti que je baissais dans son estime. Alors c'est le moment d'introduire un petit peu de complicité. Et pour devenir complice avec quelqu'un, ça se passe en deux temps. Premier temps, le compliment. Deuxième temps, critiquer un confrère. Démonstration. Colombe Schneck, j'aime beaucoup quand vous dites dans Les guerres de mon père, la littérature nous a sauvés et nous a aussi protégés de ceux qui jugent sans comprendre. Voilà, c'est beaucoup plus évolué que Bernard Werber qui dit me lire, c'est comme faire l'amour avec moi. Hein, si j'avais su, je me serais épilée. Voilà, j'ai vraiment là, on a. Là, j'ai là, elle a pris son verre d'eau, elle a bu. J'ai l'impression que c'est un peu l'ascenseur émotionnel, vous et moi, pour l'instant. Donc, c'est le moment où je vais lui montrer que nous avons des combats communs. Coulonges-Chenec, la littérature n'est pas très féministe. C'est vrai, regardez, on a commencé par la Bible, c'est très mal parti, avec deux personnages féminins. Marie qui est vierge, Marie-Madeleine, qu'elle, on ne sait pas c'est quoi son signe astrologique. Et Marie-Madeleine, en fait, c'est une prostituée. Alors, la Bible, c'est quand même un livre où on apprend que les voies du Seigneur sont impénétrables, mais pas Marie-Madeleine. Super, super, vraiment. Voilà. Et toujours penser, pourquoi pas, à un petit cadeau. Mais là, j'ai raté, parce qu'en fait, c'était la Journée internationale des droits de la femme. Moi, je voulais vous offrir un harem, Mickaël et Benage. Et en fait, je vous offre un centre aéré. Donc, enfin, n'oubliez pas de quitter la personne qui vous impressionne sur une note de dignité, pour ne pas qu'elle pense que vous êtes trop fan non plus. Coulonges-Chenec, je vous aime. Vous penserez à dédicacer le livre pour moi à la
sortie. Bien sûr, avec plaisir. Vous avez des lecteurs qui vous suivent de livre en livre, Coulonges-Chenec ?
Oui, c'est ça. Que, quand j'ai commencé, j'ai écrit mon premier livre, il sortait en 2006. Et il y a plusieurs choses qui m'ont épaté. La première, c'est de publier. Je n'en revenais pas moi-même. Vu que j'étais publier un livre, ça me paraissait fou à l'époque. Et j'ai commencé à rencontrer des auteurs que je lisais. Et ça, genre, j'étais impressionnée. Et puis 12 ans après, je vois que les livres restent. Et ça, c'est incroyable, parce qu'un livre, c'est quelque chose qui reste.
Coulonges-Chenec, vous avez réagi assez vivement au propos d'Yann Moix. Oui. Vous avez publié une photo de vos fesses, oui, qui sont magnifiques. C'est le
Merci.
Crawl.
Bah, bien sûr.
Est-ce qu'on peut revoir le document, s'il vous plaît ?
À la radio, c'est difficile. Mais
vous avez eu des réactions à ça ? Je veux dire, par exemple, des gens qui vous ont recontacté en disant « Coulonges, comment tu vas ?»
Bien sûr. C'est juste pour draguer, en fait.
C'est le crawl. Si je fais du crawl, je vais avoir des fesses comme ça ?
Oui.
D'accord.
Promis.
Et vos fesses ont changé avec le crawl ?
Je ne sais pas, parce que je garde peu mes fesses. Hein. Mais en fait, parce qu'elles sont derrière moi. Mais je voulais... La sexualité, les problèmes sentimentaux de Yann Moix, je m'en fiche. Enfin, c'est ses problèmes à lui. Comme mais il y a une espèce de poison chez les femmes. Moi, à partir de 25 ans, je pensais que... Attends, si je ne suis pas avec un mec d'ici l'âge de 30 ans, ce sera terminé, je serai trop vieille. Hein. Ah ouais. Il y a ce poison...
Et là, vous dites, je ne me suis jamais fait autant draguer que depuis que j'ai 50 ans.
Oui, j'ai l'impression d'être devenue visible à 50 ans. Et pourtant, il y a effectivement ce poison qui fait qu'à 27 ans et demi, ça sera trop tard. Hein. Je me souviens, quand j'avais 28 ans, on disait, mais attends, si à 30 ans, t'es pas mariée, mais t'es foutue. Hein. Et puis à 34 ans, il y avait cette rumeur qui disait qu'à 34 ans, une femme a plus de chances à New York de mourir dans un attentat que de se marier. Et en plus, comme si le mariage était un but en soi et qu'une femme pouvait pas être heureuse ou un homme en dehors du couple.
Et donc maintenant, vous êtes une femme de 50 ans épanouie, avec des fesses magnifiques, vous faites du crawl.
Exactement.
Vous avez trouvé le bonheur en vous et les hommes vous draguent.
Tout va bien. Et alors, lisez La tendresse du crawl. Tout le monde va lire La tendresse du crawl. L'amour est revenu, ça s'appelle. C'est tout. Si vous lisez ce livre, vous allez être exactement comme moi et ce sera formidable.
Merci.